Vous écoutez France Musique.
Bonjour et bienvenue dans le matin des musiciens du vendredi, c'est sur France Musique et nous allons traiter un sujet important, le grand théâtre de l'amour. Bonjour Alexis Kozenko, c'est à vous d'avoir inventé ce titre ou bien c'est Drabeau ?
Il ne vous paraîtra peut-être pas très original mais nous l'expliquerons tout à l'heure.
Alors le grand théâtre de l'amour, c'est à l'occasion d'une série d'objets musicaux empruntés à Jean-Philippe Rameau. Ça fait un disque et le disque est né autour d'une chanteuse, si j'ai bien compris.
Oui, une jeune chanteuse de talent dont on ne parlait pas tant il y a 2 ans lorsque je l'ai rencontrée, mais dont on parle énormément aujourd'hui, qui est Sabine Devielle. On en parle parce qu'elle est omniprésente sur les scènes et je crois qu'elle éblouit tout le monde à la fois par son talent, par sa voix, par sa virtuosité, mais aussi son intelligence musicale. Et Sabine est une jeune chanteuse que j'ai rencontrée donc il y a maintenant...
5 ans.
5 ans, oui, presque 5 ans.
C'est ce qu'elle dit dans la notice du disque.
Alors ça doit être vrai, je n'ai pas compté. Elle était toute jeune étudiante au conservatoire. Je l'ai entendue à une audition de classe, tout simplement.
Et elle chantait les Rossignols amoureux.
Voilà, je cherchais, moi, quelqu'un pour Rameau. Enfin, j'y repensé un peu plus tard. Et pour un premier grand concert au Festival de Bruges, autour des Indes Galantes. Donc, vous voyez, ma collaboration avec Sabine a débuté autour de Rameau. Et là, elle se concrétise de manière fabuleuse.
Alors, vous êtes accompagné, non pas de Sabine, ce sera pour une autre fois, mais vous êtes accompagné, Alexis Kozenko, d'un autre flûtiste. Donc, on va entendre des pièces à 2 flûtes qui ne sont pas dans le disque.
Non, elles pourraient l'être.
Qu'est-ce que vous préparez comme mauvais coup, là? Alors, Monsieur Bénichou, dites-moi.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, disons que...
Vous êtes dans le disque, vous, par contre, Olivier.
Tout à fait. J'ai participé à l'enregistrement. Et je connais également Alexis depuis de nombreuses années, plus de 5 ans, puisque nous avons... régulièrement l'occasion de jouer ensemble dans d'autres orchestres. Et quand Alexis m'a proposé de participer à cette aventure, eh ben, j'ai été enthousiasmé. Voilà.
Alors, sachant que nous avons un disque qui paraît demain, je crois, une série de concerts à Bruges, Utrecht, Marseille et à l'Opéra Royal de Versailles, les 2, 3, 4 et 5 novembre, vous savez tout. Vous n'avez peut-être pas compris, parce que je ne vous l'ai pas dit, pourquoi il y a 2 flûtistes. Ben, vous allez le savoir, mais on commence avec beaucoup de monde.
Thank you.
Jean-Philippe Rameau, avec qui nous sommes toute la matinée, en compagnie d'Alexis Kosenko, qui est le responsable de ce beau disque, et d'Olivier Bénichou, qui joue aussi caché dans l'orchestre. Olivier, vous jouez le piccolo, là ?
Oui, tout à fait. Bon. J'étais pas le seul.
Et si je peux me permettre, le piccolo n'est pas exactement caché dans l'orchestre. C'est même ce qui dépasse le plus.
Mais il était caché, là, je pensais. Alors, ce qui est surprenant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'on vient d'entendre l'ouverture de Pygmalion, qui est un acte de ballet. Pygmalion, il faut rappeler peut-être que c'est ce personnage extravagant qui est amoureux de sa créature, c'est bien ça ?
Exactement.
Ça, ça remonte à l'Antiquité grecque. Ensuite, il y a un air de Nérine dans Les Paladins. Donc vous avez enchaîné des pièces appartenant à des objets différents. Et puis enfin, une contredanse extraite des fêtes de l'hymen et de l'amour, ou les dieux d'Égypte, c'est formidable les titres de cette époque-là. Puis alors les librettistes, je ne vous dis pas, M. Houdard de Lamotte, M. Duplat de Monticourt, M. Louis de Cahuzac, avec un S, hein, pas avec un Z. Alors pourquoi ce montage, Olivier ? Parce que ça a l'air tout à fait naturel.
Non, il me semble que l'idée d'Alexis, vu qu'il est à l'origine du projet...
J'ai compris, oui.
Et bien évidemment, c'était pas uniquement de constituer un assemblage de pièces disparates pour faire un best-of, c'était pas du tout l'idée globale, c'est de...
C'est autour d'une chanteuse, tout de même.
Voilà, évidemment, mais que l'assemblage en lui-même de toutes ces, tous ces extraits d'œuvres, à la fois orchestraux et vocaux, forment un tout cohérent comme une espèce d'opéra. D'où le titre, évidemment, du disque.
Une sorte de pasticcio.
Voilà, si je ne veux pas sembler amer, mais avec un petit budget, eh bien, on fait un opéra avec une seule chanteuse. Mais quelle chanteuse ? Non, plus sérieusement, en fait, l'idée, c'était aussi d'utiliser l'idée de ce récital avec Sabine pour à la fois explorer toute l'œuvre d'opéra de Rameau, depuis son premier jusqu'à son dernier opéra, et en même temps explorer toute la palette d'expressions relatives à l'amour chez Rameau. Et donc, on a organisé les pièces de manière à avoir une sorte de grand crescendo grammatique qui ait du sens, même si c'est un sens qu'on n'a pas forcément envie d'expliquer, parce que l'histoire serait peut-être un tout petit peu abstraite, mais qui, finalement, musicalement, prend tout son sens. Et on l'écoute comme on écouterait un opéra.
Alors, puisque vous avez dit qu'on part du premier, qui, si ma mémoire est bonne, c'est Hippolyte Arici.
Exactement, 1733, à l'âge quand même respectable.
C'est Boréade.
Oui. À l'âge respectable de 50 ans.
Oui, c'est tard pour écrire un opéra, il me semble. Enfin bon.
Oui, ça me laisse encore quelques années, d'ailleurs, devant moi, ça me rassure.
Donc, alors là, c'est une tragédie en musique, Castor et Pollux, l'air de Télaïr. Qui est Télaïr ?
Télaïr est l'amoureuse de Castor.
Et elle n'est pas l'amoureuse de Pollux ?
Si aussi, ça crée quelques problèmes. Mais en l'occurrence, Castor est là décédé.
Air de Télaïr, ça commence par les mots « tristes après ». On sait tout de suite qu'on est dans le XVIIIe siècle français par la langue. 1737, et c'est évidemment Sabine de Vielle avec votre ensemble qui s'appelle « Toujours les ambassadeurs ».
Oui, je ne pense pas qu'on le dépatissera avant la sortie du disque. Donc.
Ben c'est demain surtout.
Demain, voilà, les ambassadeurs.
Sabine de Vielle est Élaïre dans l'air Tristes Apprêts, extrait de Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau qui nous occupe ce matin avec Alexis Kossenko et Olivier Bénichou. Alors, cet air est d'une sombritude, comme on dit dans les Deux-Sèvres, extraordinaire, en particulier avec l'usage des bassons, et pourtant c'est en majeur. Pourquoi cette tristesse insondable ? Et que cette dame chante bien, vous avez raison.
Merci. Merci à elle surtout. Je pense que c'est aussi une expression du génie de Rameau d'avoir opposé la tonalité majeure à l'expression du désespoir absolu. Parce que pour moi, c'est comme si les cordes, le tapis de cordes en mi bémol majeur exprimait aussi une volonté de consolatrice. Comme si on voulait envelopper l'héroïne pour la consoler. Et il y a donc cette opposition entre le texte, les phrases complètement désespérées de Télaïre, les hurlements lugubres des bassons. Elle assiste aux funérailles de Castor, de loin, de son bien-aimé, et elle voit les pâles et tristes lueurs des flambeaux qui accompagnent le tombeau.
Ce sont donc les bassons qui se chargent, on pourrait dire, de la mise en scène.
D'une certaine manière, avec cette sonorité d'une section de bassons, ce n'est pas un seul basson, mais quatre, comme on en avait à l'Opéra de Paris à l'époque, l'Opéra Royal. Et ça donne vraiment une couleur proche d'ailleurs de celle des corps, c'est assez surprenant, hein, mais c'est vraiment ce que je qualifierais de l'expression du lugubre dans toute sa splendeur.
Alors maintenant, on arrive à une petite séquence où vous allez enchaîner plusieurs pièces pour deux flûtes. Alors j'ai regardé les livres que j'ai et j'ai été étonné quand vous m'avez dit « Eh bien, on vient avec Olivier et on va jouer du Rameau à deux flûtes. » Alors éclaircissez ce mystère, Seigneur, comme on disait autrefois.
En réalité, ce que nous allons jouer, ce sont des transcriptions. Ce que je trouvais intéressant, c'est de voir quel impact la musique de Rameau a pu avoir chez les musiciens qui...
Contemporains.
Exactement. Et puis les musiciens qui jouaient avec lui. Et un d'entre eux, et non des moindres, était le flûtiste Michel Blavet.
Alors, Michel Blavet, il faut peut-être rappeler qui c'est. C'est un homme qui est né en 1700, il meurt en 1768. On dit qu'il est totalement autodidacte en matière de flûte et de basson. Il a joué au concert spirituel. Ensuite, il a été invité à Potsdam chez Frédéric II, qui avait une passion pour la flûte, apparemment. Et puis, il n'est pas resté. Il est revenu à Paris, à la musique du roi, et puis à l'opéra. Et il a écrit beaucoup de musique pour flûte et deux flûtes. Et il y a peut-être aussi des concertos, je ne sais plus.
Il reste un concerto de sa plume.
Bon, alors, il a joué sous Rameau.
Blavet
dans les
a
opéras.
Été quasiment le flûtiste de Rameau pour la grande majorité de ses ouvrages. D'ailleurs, il est une des rares personnes expressément nommées sur les partitions, sur les manuscrits de Rameau, ou dans les petites annotations sur les partitions d'ensemble, où Rameau notait, faites, copier pour Monsieur Blavet. Enfin, on sait qu'il était là. Il était quelqu'un de relativement important, je pense. D'abord, si on en juge par la délicatesse, la difficulté des parties de flûte qui lui sont confiées, et il semblerait qu'il y ait eu une immense confiance de Rameau envers le flûtiste Blavet.
Alors, le flûtiste Blavet, après, s'est fait des fantaisies de Rameau pour deux flûtes.
Blavet a publié, comme énormément de compositeurs à son époque, des recueils de pièces pour deux flûtes. Le genre du duo de flûte est un genre tout à fait commun à l'époque, qui s'adresse principalement aux amateurs, parce que la flûte est un instrument qui séduisait énormément les amateurs, et donc il fallait leur fournir énormément de musique.
C'est bien entendu la flûte moderne à l'époque, le traverso.
Bien sûr, la flûte n'avait que... Elle s'était développée dans les 20-30 dernières années du XVIIe siècle, donc elle était encore toute récente. Et Blavet lui a donné ses lettres de noblesse en la faisant passer du statut d'instrument délicat propre à accompagner la voix et à jouer des pièces, c'est-à-dire dans le style français, les pièces, la suite, hein, prélude allemand, tout ça, pièces sans grande ambition. Eh bien, il a fait passer cet instrument au rang d'instrument soliste brillant.
Mais au concert spirituel où il a été pendant un temps, j'imagine qu'on jouait des concertos des Italiens qui écrivaient déjà des concertos pour flûte, ou pas ?
Non. Non. Les Italiens ont été très en retard pour ce qui était d'écrire des concertos pour flûte, à l'exception notable de Vivaldi, parce que
un
tout
de
simplement
vos amis également.
Oui, parce que la flûte traversière n'était pas extrêmement populaire, extrêmement implantée en Italie où le violon était roi. Et c'est justement en France et en Allemagne que la flûte traversière a d'abord trouvé ses lettres de noblesse, surtout en France et notamment grâce à Blavet. On disait d'ailleurs de Blavet que sa langue et ses doigts étaient plus agiles que ne l'étaient les ailes d'un oiseau.
Eh bien, dites-moi. Alors, nous allons vous confier pour le matin des musiciens de jouer Les Sauvages des Indes Galantes, La Rose des Indes Galantes, un branle de Platé et un air de victoire des fêtes d'Hébé. Messieurs les flûtistes de la cour de France Musique, c'est à vous.
Thank you.
Nous venons d'entendre Alexis Kossenko et Olivier Bénichoux dans Les Sauvages, La Rose, un branle et un air de victoire emprunté à des opéras de Rameau. Dans, comment pourrait-on appeler, Alexis, ces pièces, c'est des transcriptions,
des transcriptions, oui,
c'est des transcriptions. Alors, cette célébration de Jean-Philippe Rameau à l'occasion de la sortie de votre disque en compagnie de Sabine Devielle, des ambassadeurs et de tout un grand nombre de gens, c'est l'occasion pour vous de nous avoir joué pour le Matin des musiciens, c'est sur France Musique.
Oui, le Matin des musiciens de Jean-Pierre Darien, s'il vous plaît.
C'est exact. Alors on va passer, après ces pièces plutôt gaies, à quelque chose de terrible dans Zoroastre. Et dans Zoroastre, qui est une tragédie en musique, 1749, vous nous proposez un ballet figuré. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ballet figuré ?
C'est tout simplement une danse qui n'a pas pour but de distraire, mais au contraire de faire avancer l'action en dépeignant des situations qui peuvent être beaucoup plus expressives.
Alors, ça figure des personnages abstraits, j'imagine.
Expressionniste, oui. Et en l'occurrence, Rameau précise ballet figuré formé par la haine, le désespoir et leur
suite. Ce sont des allégories.
Exactement.
Oui, des illustrations sonores, en fait.
La haine donne à la vengeance une poignée de serpent et le désespoir lui remet un poignard teinté de sang. C'est donc tout un programme et on voit que Rameau ose aller vraiment vers l'expression de l'horreur la plus absolue. Et je pense que de la manière dont il dépeint cette musique, cette situation, son choix des harmonies et des dissonances nombreuses, des rythmes heurtés et imprévisibles, il veut déstabiliser l'auditeur et il emmène la musique au-delà du réalisme. Et je pense que pour cette raison, on peut le qualifier d'expressionniste avant l'heure.
Alors, c'était le ballet figuré de Zoroastre, où on entend passer la vengeance, le désespoir et la haine. Beaucoup de monde. On continue, Alexis, avec un air de tempête dans Les Indes galantes. Pourquoi ce rapprochement entre la haine, le désespoir et la tempête ? Parce que c'est ce qu'on ressent. C'est un genre, la tempête, dans les opéras à l'époque.
Oui,
comme le sommeil.
Exactement. C'est un genre qui remonte d'ailleurs à quelques décennies plus tôt. Et c'est la tempête d'Alcyone, qui n'était pas la toute première tempête de Marais, qui a donné ses lettres de noblesse au genre, puisqu'elle est devenue la tempête emblématique que tous les compositeurs se devaient d'imiter dans leurs opéras.
Il faut rappeler qu'on est encore, à cette époque, dans une esthétique de l'imitation de la nature. C'est tous les débats esthétiques tournent autour de ça. Et à un moment donné, l'imitation de la nature se fait littérale. On est dans cette théorie de l'art encore.
Oui, mais Rameau est allé plus loin que ça, parce que la tempête que décrit Rameau, eh bien, c'est une allégorie de la tempête qui
intérieure.
Règne dans le cœur
d'Émilie
à ce moment-là, qui est dévastée par l'amour, et donc elle sombre littéralement, et donc elle se représente et elle donne presque vie à cette tempête, au vaisseau qui chavire, et quand elle dit que finalement elle est ramenée au port, elle avoue avoir cru elle-même à la véracité de ce cataclysme.
La tempête et l'air d'Émilie dans les Indes galantes, dans la partie qui s'appelle le Turc généreux. Alexis Kosenko, on a là une scène dont la mise en scène est dans la musique. C'est ça qui m'impressionne beaucoup chez Rameau. La manière dont il orchestre le délire de cette dame qui chante avec un orchestre qui figure la tempête. On n'a presque pas besoin de mise en scène. C'est tellement explicite.
C'est vrai, c'est pour ça que je trouve possible de donner du Rameau en version de concert, parce que la mise en scène est dans la musique, pour une grande part en tout cas. On a donc dans la construction de cette tempête, on commence avec un unisson de si bémol majeur, les notes s'accélèrent, les notes répétées des cordes, puis l'accord se construit petit à petit, devient dissonant, la tempête prend forme, devient de plus en plus violente.
Et ça s'apaise.
Oui, oui, oui. Et la manière dont il utilise les instruments n'a plus rien de... Il n'y a plus la moindre volonté mélodique dedans, mais simplement de dépeindre avec...
Le fracas qui se passe dans la tête d'Émilie.
Et puis, je ne sais pas comment les flûtistes peuvent ressentir cette musique-là, parce qu'ils ont un rôle tout particulièrement important dans les tempêtes.
Oui, tout à fait. Et ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une écriture purement flûtistique, dans le sens où on est déjà dans un registre vraiment extrême, avec des notes qui sont très rarement jouées, comme le fa aigu. Et c'est sûrement volontaire de la part de Rameau, vu que c'est un coloriste hors pair. Il y a une volonté de créer cette tension de manière évidente.
Alors, on vous reprend tous les deux comme flûtistes dans les Indes galantes d'une musette et un rigaudon de Zoroastre. Olivier Bénichou et Alexis Kosenko dans cette musette des Indes galantes, ce rigaudon de Zoroastre, toujours de Jean-Philippe Rameau, toujours dans la transcription de Michel Blavet. Il en a écrit pour d'autres compositeurs, Michel Blavet, des transcriptions aussi de ce type.
Oui, en fait, ce recueil de pièces pour deux flûtes contient beaucoup de pièces de Rameau, mais des pièces d'autres auteurs et français, comme Pancras Royer ou Montéclair ou d'autres, Rousseau même. Mais aussi, il y a ici et là un menuet de Farinelli, une pièce de Handel, une pièce de Telemann. Donc, il y avait quand même de la musique qui circulait. On n'était pas chauvin à ce point-là.
Bien. Alors maintenant, on va aller vers un passage particulièrement sombre, qu'on va écouter avant même de vous dire de quoi il s'agit. C'est à la fin du deuxième acte de... Faut peut-être dire de quel opéra il s'agit, Alexis.
Eh bien, le tout premier opéra de Rameau, son coup d'essai, son coup de maître. Voilà, 1733, le fameux trio des parcs de la
deuxième, du deuxième acte.
Deuxième trio des parcs, effectivement.
Alors, pourquoi c'est chanté par des hommes ? Alors, on va dire qui c'est, tout de même Jean-Louis Meunier, Jacques-François Loeseler des Longchamps et Jérôme Varnier. Et c'est Marc Minkowski et ses musiciens du Louvre.
Je pense que l'expression de l'horreur absolue devait être exprimée par des hommes et qu'aussi ce sont à des voix d'hommes en général qu'on confie les rôles de caractère les plus caractérisés.
Et comment s'est passée cette... quand les Parisiens ont entendu ça, ils ont dû être horrifiés, non ?
Alors, en fait, les Parisiens en 1733 n'ont pas entendu ça. Rameau a écrit cette musique et elle a été tout simplement refusée par les chanteurs de l'Académie royale. Et ce n'est que plus tard que les Parisiens ont pu découvrir cette version de ce trio. Et là, c'est un des quelques cas où Rameau s'est heurté à l'incompréhension des musiciens. Pour ne pas parler de celle du public, mais d'abord l'incompréhension des musiciens. Et lorsqu'il publie, juste après son opéra, il dit « J'ai tenu à faire imprimer la version originale de ce trio des parcs que les musiciens, que les chanteurs de l'opéra ont refusé de chanter, faute de vouloir comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas. »
Bien.
Et pourquoi ? Parce qu'il se montre là de novateur en utilisant le procédé de l'enharmonie pour exprimer l'horreur du destin qui se découvre aux yeux des Parks. Mmh. Il procède par un glissement chromatique en utilisant l'enharmonie, en transformant le sol dièse en la bémol, qui donc occupe une fonction différente dans un accord qui n'est pas du tout un accord qu'on pourrait attendre dans ce cheminement harmonique.
Et c'est surtout que ça va tellement vite, le changement harmonique, extrêmement tendu.
Sa volonté, c'est de déstabiliser l'auditeur et de lui donner la nausée. L'auditeur, à cette époque-là, avait besoin de fondements harmoniques et de repères. Et là, il n'a plus de repères. Je pense que des gens auraient eu la nausée en écoutant
ça. C'est extrêmement violent en 3 minutes.
Veut. Voilà, je parlais d'expressionnisme tout à l'heure.
Pour terminer l'acte, en plus. Alors, on va s'apaiser un petit peu et apaiser les oreilles des auditeurs de France Musique. Vous allez reprendre vos flûtes pour une musette extraite des fêtes de l'hymen et de l'amour. C'est Olivier Bénichou et Alexis Kosenko, à moins que ce soit Alexis Kosenko et Olivier Bénichou. Nous venons d'entendre Alexis Kosenko et Olivier Bénichou pour le Matin des musiciens dans la musette extraite des fêtes de l'hymen et de l'amour de Jean-Philippe Rameau qui nous occupe ce matin sur France Musique à propos de la sortie de ce disque et des concerts, je le rappelle, qui ont lieu avec les ambassadeurs Samine Devielle et tout ce petit monde qu'on entend ce matin à Bruges le 2, à Utrecht le 3, à Marseille le 4 et à l'Opéra Royal de Versailles le 5 novembre. Autant dire que c'est tout de suite. Alors, comme on est dans la grandeur, eh bien, on va retrouver une chaconne dans les Indes galantes. Une chaconne, c'est pour conclure les actes en général.
Oui.
Cette mauvaise habitude vient de Lully, je crois.
Voilà, ça remonte à Lully et chaque compositeur se devait aussi d'inclure une chaconne. C'était un incontournable de toutes les tragédies lyriques françaises et même les opéras-ballets.
Thank you.
La chaconne qui conclut les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, c'est les ambassadeurs sous la direction d'Alexis Kosenko. Et c'est autour de la figure de l'amour, le grand théâtre de l'amour, avec en personnage principal Sabine Devielle. Puis il y a aussi d'autres personnages, Samuel Bodan, le ténor, Emery Lefebvre, le baryton, le jeune chœur de Paris, dirigé par Henri Chalet. Alors, vous me disiez, Alexis, que c'était un projet qui s'était conclu autour de cette chanteuse, Sabine Devielle, et ça vous permet de faire, je dirais pas un crossover, parce que c'est pas exactement ça, mais de faire une histoire, votre histoire, sur Rameau, à partir d'extraits très hétéroclites, mais toujours autour de l'amour. C'est quoi l'amour, alors, pour ces personnages d'opéra?
Je vois amour comme un metteur en scène de nos vies, à nous, les humains. On n'est rien d'autre que les marionnettes de l'amour. Et finalement, si on se réfère à certains opéras de Monteverdi, par exemple, dans le prologue, la Humana Fragilità, torturé par l'amour, le temps et le destin, je pense qu'on a une idée un petit peu de ce que la manière dont l'amour peut influer sur nos vies. Et donc voilà, amour est le metteur en scène dans un théâtre et bien va aller chercher cette jeune fille qui n'aspire à rien d'autre que de chanter une simple brunette au début de notre disque et va la propulser dans une histoire qui va la complètement la dépasser, d'abord en lui présentant tous les attraits de l'amour. Et donc elle va être d'abord émoustillée, puis passionnée, et là la voilà qui sombre peu à peu, qui va être torturée par amour, hein, qui va la torturer par pur plaisir, la décevoir, la tromper, la désespérer, jusqu'à ce qu'on sombre finalement dans la folie, et c'est là que trouve d'ailleurs sa place le fameux air de la folie de Platée, avant qu'amour remette les choses en place avec cette chaconne grandiose et apaisante des Indes galantes, et triomphe finalement avec l'air de Zima, régner plaisirs et jeux des mêmes Indes galantes.
Alors, ce qui m'impressionne dans votre manière de faire ce programme et cet objet, c'est une histoire en fait, puisque on remarque quand on écoute que souvent les pièces se sont tuilées les unes dans les autres. Est-ce que vous allez faire ça en concert sous cette forme-là, tout à fait, ou ça va être un peu différent?
Ce n'est pas exactement le même programme qu'on donne en concert, mais dans les grandes lignes, il est semblable. Et oui, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait, parce que séparer toutes ces pièces-là et les démonter, ça n'a pas de sens, sauf si elles sont remontées de manière à former un tout. Et il faut, à travers un programme qui est reconstitué comme ça, où on prend des bouts d'opéra et on les assemble, eh bien, il faut reconstituer un autre opéra, un opéra imaginaire, un opéra peut-être dont le livret n'a pas vraiment de sens si on l'écrit, mais il a du sens pour le cœur, et c'est ça qui est important.
Ça fait donc un spectacle d'à peu près un peu plus d'une heure? Parce que la grandeur ou la terreur, c'est parfois un peu fatigant, et on a besoin de cet entretien des muses. Il vient d'où l'entretien des muses que vous allez jouer tous les deux, Olivier Benichoux et Alexis Kosenko?
C'est d'abord une pièce de clavecin que Rameau a ensuite orchestrée et réutilisée dans, j'ai un doute sur l'ouvrage, dans lequel, peut-être Zoroastre, où on trouve la première moitié de cet entretien des muses pour l'orchestre, mais qui n'a pas d'ailleurs ce nom, entretien des muses. Donc, en l'appelant ainsi, Blavet se réfère sans aucun doute à la version pour clavecin.
Eh bien, on vous écoute, messieurs, donc, dans l'entretien des muses de Jean-Philippe Rameau.
Thank you.
Alexis Kossenko et Olivier Bénichoux dans L'entretien des muses de Jean-Philippe Rameau, qui est d'abord une pièce de clavecin. Alors, on a fait appel à l'enregistrement d'Hippolyte et Aricie de Minkowski tout à l'heure, et maintenant, on a envie d'écouter ce qui est pour moi le plus beau disque Rameau que je connaisse, sauf le vôtre, bien entendu, que je n'ai pas écouté, qu'on aura écouté un peu dans cette émission, qui est Les Boréades de Jean-Philippe Rameau par M. Gardiner. Alors, vous avez choisi, Alexis, que nous entendions « Obéissez, quittez vos cavernes obscures, Boré et le cœur », et Boré, c'est, je crois, Alexis, le vent du Nord.
C'est cela.
Un extrait des Boréades de Jean-Philippe Rameau, c'était « Obéissez, quittez vos cavernes obscures ». Boré, c'est Jean-Philippe Lafont, le Monteverdi Choir et les English Baroque Soloists sous la direction de John Elliott Gardiner. Alors, ce qui me surprend, c'est que cet opéra n'a pas été monté. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi, Alexis ?
On n'en connaît pas les circonstances exactement. On sait simplement qu'il y a eu des répétitions, plusieurs journées de répétitions organisées. Il y a des documents d'ailleurs qui relatent que les musiciens ont été transportés de Paris à je ne sais plus trop où pour répéter cet opéra. Et les répétitions s'arrêtent. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, ce n'est pas que le compositeur est mort juste ce jour-là. Il y a une autre raison là derrière qui est pour l'instant encore inconnue. Donc voilà un opéra dont on ne sait pas quel impact il aurait eu sur le public, mais certainement qu'il aurait continuer à dérouter le public il y a des pages totalement abstraites, comme vous venez d'entendre ici. Quand on pense que Rousseau attaquait Rameau en prenant la suprématie de la mélodie à la manière italienne avec un accompagnement simple, et voilà que Rameau semble lui répondre de la manière la plus ironique qui soit, en notant toute mélodie de sa musique.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait après cette disparition de ces boréades rameaux? Il meurt pas tout de suite.
Je ne sais pas, mais il était quand même relativement âgé, donc
Il meurt peu de temps
peu de temps
après,
après,
donc
oui.
on peut presque considérer ça comme un testament musical. Mais ce qui est étonnant dans cette œuvre, encore une fois, c'est le côté totalement novateur. Quand on voit ce qu'on vient d'écouter, on pourrait se demander dans quel siècle on est.
C'est peut-être ça qui a décontenancé les musiciens aussi, peut-être, non?
Oui et non, parce que je pense que les musiciens étaient quand même préparés à ça. L'ouvrage précédent, Les Paladins, était à peine moins moderne et contient des parties instrumentales qui sont, je dirais, absolument retorses et qui mettent les instrumentistes en péril à chaque pas, et pas beaucoup moins que les Boréades. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la volonté de Rameau, là, quand il écrit ce prélude avant que Boré ne se mette à chanter. Cette musique-là, qui n'a plus de mélodie, qui n'est qu'une succession de rythmes, de notes éparses, il y a une volonté là derrière, qui n'est pas de virer à l'abstraction, mais simplement que Boré s'adresse à ses sujets, les vents, et à ce moment-là, il essaye de rassembler ses forces qui sont vaines et qui ne, il est à bout de pouvoir à ce moment-là. Il est misérable, Boré, dans cet opéra. Et je crois que Rameau exprime de manière extraordinaire l'effritement du pouvoir de Boré.
C'est peut-être une métaphore du politique dans ces années-là. On commence à s'apercevoir que peut-être la monarchie est en train de s'écrouler dans des choses improbables.
Voilà une piste de recherche intéressante.
Mais il n'y a pas de correspondance de Rameau sur ça. Il n'y a rien du tout sur les Boréades.
Pas à ma connaissance.
Bon, eh ben, on va, quand la crise sera passée, payer des bataillons de musicologues pour qu'ils aillent chercher dans toutes les bibliothèques de France, de Navarre et d'ailleurs, et même donc de Perse, des Indes et de tous les pays, d'Égypte aussi, que Rameau a aimé. Concluons peut-être avec l'air d'Alphys des Boréades. C'est votre jeune fille favorite, Sabine de Vielle.
Samy Deviel, oui, avec les ambassadeurs, dans ce qu'on peut considérer comme peut-être le plus grand air que Rameau a écrit, puisque par ses proportions, d'une part, quasiment 8 minutes, et également par un ambitus qui est beaucoup plus grand que ce qu'il a utilisé tout au long de sa carrière, puisque là, la soprano monte jusqu'au do, et c'était relativement rare, sinon quasiment inexistant, avant cet air-là, dans la tragédie lyrique française.
Peace.
L'air de la reine de Bactriane dans les Boréades, Sabine de Vielle, les ambassadeurs, et la conclusion, cette magnifique contredanse. Merci à tous les deux, Olivier Bénichoux et Alexis Kosenko, pour ce passionnant, comment dire, parcours, cette promenade dans Jean-Philippe Rameau. On vous retrouve demain à Bruges, après-demain à Utrecht, après-après-demain à Marseille, et le 5 à l'Opéra Royal de Versailles.
Merci Jean-Pierre.
À bientôt.
À bientôt.
Nous étions en compagnie d'Olivier Dupré, Sébastien Labarre, Véronique Cardilès, Géraldine Prutner. Lundi, c'est Édouard Fouré-Colfuti, comme d'habitude. Et vendredi, c'est moi avec Olivier Messiaen. Bon week-end à l'écoute de France Musique et à vendredi.